לשם ייחוד קודשה ברכו שכינתה, בתחילו ורחימו ורחימו דחילו. Ce que je viens de dire maintenant, c'est en fait une base dans le judaïsme et plus précisément chez les kabbalistes qui considèrent que tout ce que nous sommes venus faire dans ce monde, c'est relier en fait l'infini au fini. Tout simplement parce que la création du monde, elle a un but, elle a un sens. Ce n'est pas que Dieu a créé un monde et qu'il a lâché. Le sens de cette création, c'est le retour du Créateur dans la création. Et donc cela ressemble à un accouchement d'un bébé. Le bébé est sortant du ventre de sa maman, le monde est sorti du ventre de l'infini. La maman revient vers le bébé parce qu'il est en danger de mort, donc il faut le nourrir. Maintenant qu'il est découpé de la maman, le monde a été découpé de son Créateur, et donc le monde est en danger. Pour ne pas que le monde s'éteigne, meure, le Créateur lui-même revient vers sa création comme la maman revient pour nourrir son bébé. Ce retour, ça s'appelle la Teshuvah de Dieu. Dieu fait Teshuvah, Teshuvah dans le sens de retour. C'est-à-dire que la Teshuvah de l'infini, le retour de l'infini vers le monde fini, pour injecter de l'être, de la vie, de la lumière et tous les éléments qui vont avec ce dévoilement de lumière, à savoir la santé, le bonheur, la joie, l'abondance et d'une manière générale la vie. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle le générateur de la vie. En hébreu, Shem Havaya. Le Shem Havaya, ce n'est pas, en français c'est devenu un petit peu galvaudé, le tétragramme. Okay. Bon, les gens voient quatre lettres, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. En hébreu, c'est très simple, ce nom indique l'être. L apostrophe, être. Et donc, Hu Mehave, là j'utilise ce nom dans un verbe. Il engendre tout, il fait tout, il est tout. C'est par lui que tout est. Ani hove, ça ne veut pas dire seulement je suis au présent, hove, mais je suis, tout simplement, je suis, de par son existence. Donc, ani hove me havayato. Très important de comprendre ça. Cette forme de création et de retour du Créateur vers sa création, c'est en réalité les quatre lettres du nom d'Hachem, celles que je viens de vous énoncer. Pour l'instant, il y a un décalage entre les deux premières lettres, le Yud et le He, et les deux dernières lettres, le Vav et le He. Alors que, normalement, si la source, qui sont les deux premières lettres, se reflète dans le résultat, qui sont les deux dernières lettres, on aurait dû avoir ce nom-là. On est d'accord? C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Et vous le dites sans faire attention, Bayom Hahu Ihiye, Hashem Echad Ushmo Echad. À la fin des temps, il n'y aura plus de décalage entre la sagesse représentée par la lettre Yud, le discernement par la lettre He, et les résultats qui vont apparaître sur terre. À partir du moment où la source et le résultat sont identiques, Hu ou Shmo Echad, il devient un avec son nom, avec son être, avec ce qu'il est. C'est-à-dire que le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est son dévoilement. De la même manière que mon nom, ce n'est que pour vous. Moi, je n'en ai pas besoin. Je ne m'appelle jamais. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas « je m'appelle ». Ça ne veut rien dire. On m'appelle. Korimli. Alors qu'en français, apparemment, tout le monde s'appelle. Je ne sais pas pourquoi. Je m'appelle. Moi, je ne m'appelle jamais. Okay? Il y a plein de dévoiements de ce style. En hébreu, c'est très précis parce que c'est divin. Donc le nom ne m'appartient pas, il n'est pas pour moi en fait. Il est à moi, mais il est pour les autres, pour me dévoiler. Donc quand on dit Hashem Echad ou Shmo Echad, il y a ici deux éléments. Il y a le Hashem et il y a le nom de Hashem. D'accord ? Est-ce que vous pouvez profaner Dieu ? Non. On ne peut que profaner son nom, c'est-à-dire son dévoilement. Ou bien sanctifier son dévoilement, mais jamais lui. Lui, on n'a pas accès. On n'a accès qu'à son dévoilement. Donc il faut faire très attention avec ces nuances, et c'est là où on commence à étudier véritablement la Torah. Sans cela, c'est gentil, très sympathique. C'est pourquoi, pour arriver à ce que l'être de l'infini, tout à l'heure j'ai dit que les deux premières lettres, c'était la sagesse infinie, c'est un point. C'est pour ça que la lettre Yud est un point. Mais vous avez remarqué qu'elle a une petite queue, parce que son but, c'est de ne pas rester fermé dans un point, c'est de commencer à donner quelque chose. Donc à travers cette petite pointe, la lettre Yud qui est un point, qui peut, avec un point, on peut tout dessiner, donc tout commence par un point. Ce point a un but, c'est de commencer à partager. Partager vers le bas. Pourquoi vers le bas? On donne un sens, parce que nous sommes des êtres humains. Mais en vérité, le haut, le bas, la droite, la gauche, ça ne veut rien dire au niveau de l'infini. Mais pour nous, le bas, ça veut dire que Dieu se met à notre portée. Il se rabaisse, il descend. De la même manière que dans la Torah, parfois vous avez des textes et Dieu est descendu pour voir ce que les hommes de la tour de Babel ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu? Il est là-bas et il est ici, ça veut dire qu'il est limité dans l'espace. Donc ce n'est plus mon Dieu. Si Dieu, en lequel j'ai foi, est limité dans l'espace, à un moment il est là-bas et à un autre moment il est là, je n'y crois plus, je jette ma kippa. Vous avez compris? L'infini. Alors pourquoi la Torah parle un langage trompeur qui peut nous tromper? Ben tout simplement parce qu'elle parle un langage humain, et donc lorsque Dieu descend, c'est qu'il se dévoile et qu'il se met à notre portée. Toujours est-il que donc cette lettre va se dévoiler, va se déployer. Et pour se déployer, on va l'écrire. Quel? Yud. J'ai déjà trois lettres. Le Yud, qui reste la racine, et Vav Dalet. Donc j'ai gagné deux lettres, mais en réalité je n'ai rien rajouté. Puisque la valeur numérique me donne le poids. Yud égale 10, Vav Dalet, 6 et 4. C'est toujours 10. Donc je n'ai rien enlevé, ni rien rajouté. J'ai juste changé la forme du vêtement. Donc si je prends le Vav et le Dalet qui est sorti du Yud, Yud, eh bien le Vav et le Dalet sont là. Le Dalet et le Vav à l'intérieur, donc j'ai la lettre He. Et donc, le Yud a engendré la lettre He. Et comme maintenant j'ai, à partir d'un point, un volume, puisque j'ai un axe horizontal, qui est l'axe des X, j'ai l'axe vertical qui est l'axe des Y, et j'ai un point dans l'espace. Ça veut dire que je viens de créer un volume. Donc du point initial, j'ai créé un volume. Ce n'est pas moi, c'est le Créateur. Le Créateur, à partir d'un point, a créé un volume dans lequel il va rentrer pour s'unifier et engendrer dans le monde du dévoilement exactement la même chose. Le jour où nous verrons ici-bas ce qu'il y a dans les mondes cachés, ce sera la fin des temps. C'est ce qu'on appelle la Géoula. Bayom Hahu, Yihyeh, Hashem Echad, ou Shmo Echad. Lui et son nom vont être identiques. Alors qu'aujourd'hui, lui et son nom ne sont pas identiques. D'ailleurs, on ne dit même pas ni l'un ni l'autre. Vous voyez le tétragramme et vous dites Aleph Dalet Nun Yud. Vous voyez le tétragramme et vous dites Ado. N'importe quel petit enfant dit eh, papa, maman, pourquoi je vois Yud, Ke, Vav, Ke, j'aurais dû lire Yeho, hein? Et tu me fais dire autre chose. Mais mon fils, ma fille, le monde d'en bas n'est pas encore dans le reflet de ce qu'il y a en haut. Mais tu as raison. Un jour arrivera où on dira le nom, parce que ce sera dévoilé. Ce degré-là a mis en place le monde dans lequel nous vivons. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde, la création, ressemble à l'accouchement d'un bébé. Donc nous sommes ce bébé. Le monde entier est ce bébé qui a été coupé avec le cordon ombilical du ventre de l'infini. Donc on va séparer les choses pour bien distinguer les choses. Séparé en hébreu, ça s'appelle l'enatek, nituk, donc tinok. C'est les mêmes lettres. Donc en réalité, on a coupé, c'est devenu un tinok qui est venu pour réparer, donc tikkun. Encore les mêmes lettres. Donc le monde dans lequel nous sommes est un grand tinok, un grand tikkun, parce qu'il a été un nituk. Autrement dit, parce que Dieu s'est, entre guillemets, volontairement séparé, il nous a sortis de lui, il nous permet d'être. Et ça, c'est le plus grand des respects. J'ai laissé place à autrui. Vous vous rendez compte? L'infini qui n'a besoin de rien, à qui il ne manque rien, donne la place. Quelle leçon d'humilité. Avec toute la grandeur de l'infini, il a laissé la place aux êtres, au monde. Et non seulement il a laissé la place, mais cette place est tellement importante qu'à outrance, elle peut même cacher celui qui était à la source. Et donc le monde dans lequel nous sommes s'appelle Olam, qui veut dire celui qui cache. Ne'elam, je ne vois rien. Donc tu peux ne plus savoir qu'il y avait un ventre de l'infini duquel tu es sorti, tu as tout oublié. Et il est encore là, toujours là, à faire vivre ce monde, même quand tu oublies. Pour que cette lumière infinie descende, donc se révèle à nous, il nous a laissé la possibilité de créer des systèmes qui vont être basés sur les mesures. Et là, j'introduis une nouvelle notion. Le monde dans lequel nous sommes, c'est les mesures. Alors que l'infini n'est pas soumis aux mesures, il n'est pas limité. S'il était limité, je jette ma kippa. Donc l'infini n'est pas limité, mais il a créé les limites. Et en créant les limites, il nous demande en fait d'être dans les limites convenables, adéquates, pour recevoir cette lumière, pour la capter. À tel point que si tu n'es pas dans les bonnes mesures des choses dans ce monde, tu ne reçois pas la lumière, elle passe à côté. Et donc, toutes ces mesures, c'est le nom avec lequel le monde a été créé. Bereshit bara Elohim. Alors que je viens de vous montrer le tétragramme, pourquoi ce n'est pas le tétragramme qui a créé le monde? Parce que la création de facto de ce monde, c'est les mesures, c'est les limites. Donc c'est le nom de Elohim qui va structurer ce monde. Et donc tout dans ce monde exige des mesures. Et si tu es démesuré, tu ne reçois plus la lumière divine, dans n'importe quel domaine. Si tu ne fais pas attention à l'exactitude de tes mots, si tu ne fais pas attention à la frontière de tes pensées, si tu ne fais pas attention à la délicatesse de tes gestes, eh bien, ça ne marche plus. Et toute la Torah, c'est en réalité un jeu extraordinaire, et pour ceux qui l'étudient, et pour ceux qui l'enseignent, de devenir de plus en plus précis. Et quand tu deviens précis et que tu ne dis plus un mot à la place d'un autre, tu commences à être un gadol en Torah. C'est ça la différence. Parce que tu sais mesurer, tu donnes les limites exactes des choses. Et si ce verre ne pouvait pas supporter le liquide parce qu'il aurait été plus faible que le liquide, ça ne marche pas. Donc l'ustensile, les mesures, vous voyez, il y a une hauteur, il y a une profondeur, il y a une largeur, il y a un contenant, doit être ce contenant plus fort, entre guillemets, que la lumière qui le pénètre. Donc nous devons construire dans notre vie, le liquide ici, c'est le flux divin, le verre, le plastique, c'est nous, en espérant que nous sommes un petit peu mieux que du plastique, mais c'est à nous de créer nos mesures pour contenir les valeurs du divin. Et plus notre ustensile est puissant, fort, résistant, plus le liquide peut devenir même chaud, brûlant. Ok.
S'il y a donc un être supérieur qui a créé, qui nous a créé,
oui,
et qui a donné finalement tout un mode d'emploi,
tout à fait,
des mesures, etc.
Oui.
Dans quel but il l'a fait?
Ok. Il l'a fait pour donner la place du profit. Et là, en réalité, on introduit le libre arbitre. Je peux ne rien faire de tout ce que je viens de dire. Je peux sortir du système et me dire, moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas.
Non, ça, c'est
nous, cet être supérieur donne la place. Il a un but, c'est donner, donner la vie et donner le bien, prodiguer le bien, mais dans un sens où celui qui reçoit le bien le reçoit vraiment. C'est-à-dire, c'est un plaisir de donner. Non, parce que si on était ses jouets, il aurait fait de nous ce qu'il voulait. Alors qu'il nous donne justement, et c'est pour ça que j'ai introduit le choix de ne pas jouer. Je n'ai pas envie de jouer.
Oui, mais si l'idée de Dieu, comme vous disiez, c'est l'infini, etc., vous disiez tout à l'heure, il ne peut pas y avoir l'espace, le temps, ça n'existe pas.
Nahon.
Il n'y a pas à droite ni à gauche.
Nahon.
On est d'accord.
Nahon.
C'est-à-dire qu'en fait, on nous donne le libre arbitre. Le libre arbitre, si on a la pensée de Dieu, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est
tout
un
point,
il n'y a pas,
tout
il y a
à
temps,
fait.
Il y a fait, etc.
Tout à fait, pour lui.
Pour lui.
Mais pour nous, non.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout, pour lui, tout est déjà...
Exactement. Exactement. Pour lui, oui, parce qu'il a la connaissance, il a le savoir. Alors, il y a fait. C'est ce qu'on appelle dans la Torah la connaissance de Dieu et la liberté de choisir de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un système qui, dans le cerveau humain que nous avons, nous n'arrivons pas à comprendre cela. Je peux juste vous donner un exemple. Hier, j'ai vu un match de foot de la finale France-Espagne, mais je n'ai pas pu le voir à temps. Je l'ai vu en différé. Maintenant, en le voyant en différé, ça devient très intéressant parce que je sais exactement ce qui va se passer. Et pendant que le joueur a la balle, moi je sais qu'il va marquer un but, mais lui ne le sait pas encore.
Oui, d'accord. Mais...
D'accord.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on croit, donc en Dieu, etc., on sait comment il fonctionne finalement.
Okay.
Et c'est très perturbant.
C'est très perturbant. C'est très perturbant. Et c'est en réalité, on n'a pas la croyance en Dieu, c'est pas ça la terminologie exacte, la sémantique est juste, nous sommes là pour le faire circuler dans notre vie, c'est tout, pour le laisser passer. C'est pas croire ou ne pas croire. Parce qu'en français, la emuna, anima amin, je crois, non. Anima amin en hébreu, c'est je fais en sorte de certifier son être, pas mon être limité. Donc finalement, je suis toujours subjectif, limité, dans mon petit monde à moi, d'homme, et je reçois le maximum que je puisse faire de son infinité. Et étant donné que je suis très limité, j'ai besoin de toi, et j'ai besoin d'elle, et j'ai besoin de lui. Parce que chacun de nous prend encore d'une autre manière, et c'est l'ensemble de l'humanité qui en réalité révèle l'exactitude la plus grande de ce qu'il est. Donc sans me mettre en fraternité avec tout le monde, pas seulement les hommes, et pas seulement les juifs, le monde entier, l'univers entier, les animaux, les végétaux, le minéral, si je n'ai pas conscience de ce grand tout, je ne peux pas réellement faire traverser par moi le divin. On a beaucoup de travail. C'est pour ça que dans ce sens où je suis en train de parler, c'est anti-religieux. Parce que la religion, elle a réduit à un petit degré. Et là, je suis en train de vous dire que c'est beaucoup plus grand que ça. Et moralité, l'épreuve de l'homme, depuis qu'il est venu sur Terre, c'est ça. Est-ce que je suis capable de vivre avec toi, avec mon frère? Premier combat de l'histoire, deux frères. Ça ne marche pas. C'est difficile. J'ai dit à mes amis qui viennent étudier une fois par semaine avec moi, quand je ne veux pas un frère parce que je suis l'aîné, et quand je suis né, j'étais tout seul, et d'un coup, quelqu'un vient perturber mon être, en hébreu, ça s'appelle l'orotzeach. Vous avez entendu le mot rotzeach. Ça veut dire, je ne veux pas un frère, donc je tue. Vous comprenez comment ça marche? Et moralité, tout le but de cette création, c'est de revenir à la fraternité. De tous les peuples, de tout l'être, des animaux, des végétaux, de tout. Et plus tu seras grande dans cette prise de conscience de l'infini, du grand tout, c'est ce qu'on appelle Shir Hashirim. On ne peut jamais, et on ne demande jamais, de faire quelque chose de nouveau dans notre vie. On ne fait que revenir vers un point que nous languissons, parce que nous l'avons déjà goûté. Et c'est pour ça qu'en hébreu, le mot kadima vient du mot kodem. Comme en français d'ailleurs, je vais en avant. C'est-à-dire ? Et donc, on ne fait que revenir. Et d'ailleurs, nous avons la paracha de la semaine, l'esra. Reviens vers toi, c'est tout ce que je te demande. J'ai besoin que tu fasses un travail de retour vers toi, jusqu'à où ? Pas jusqu'à ce petit moment où tu vas découvrir ta petite personne. Ça, c'est la psychologie à deux balles. Okay? Va vers toi, pense à toi maintenant, tu as pensé à tout le monde jusqu'à maintenant, ça suffit. Okay? Tous ceux qui partent vers chez les psychologues vers les 40, 50 ans, ils divorcent, il y a tout qui se casse, la gueule. Ça, c'est la bonne psychologie. La Torah, elle ne te dit pas ça. Au contraire, la Torah, elle vient, elle te dit... Va vers toi, mais au fond de toi, tu ne vas pas trouver Yoël. Moi, je ne vais pas trouver Yoël au fond de moi. Au fond de moi, je dois trouver l'humanité et le cosmos tout entier. Et tant que je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas assez profondément à l'intérieur de moi. C'est dit dans le verset. Ve'esra le goy gadol, ve'nivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est ce que Dieu demande à Abraham. J'ai pas envie que tu sois un grand homme religieux, machin, que tu fasses des tribus. J'en ai rien à faire de ça. Je veux que tu ailles sur ta terre, parce que c'est le lieu qui correspond à ta nature, et je veux que tu deviennes une nation qui va relier les nations entre elles. Alors ce bonhomme-là, Abraham, qui est notre papa, extraordinaire, quand est-ce qu'il est arrivé dans l'histoire humaine? Au moment où il y a eu la plus grande des séparations de tout le monde, c'est-à-dire la tour de Babel. Vous voyez maintenant comment la Torah est intelligente? Sur ce décor de séparation totale va naître l'homme qui va être la colle, l'adhésif entre tout le monde. Et ça, c'est le rôle du peuple d'Israël dans le monde. Nous sommes l'adhésif entre tous les détails de ce monde minéral, végétal, animal, homme, humanité tout entière. Et ça, c'est le champ de tous les champs. Toutes ces mesures qui sont nécessaires pour arriver à faire ce travail nous demandent beaucoup de travail. Changer une mesure de vie, une vertu de vie, une façon d'être, c'est beaucoup plus difficile que d'appliquer toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que nous revenons en réincarnation que pour corriger nos vertus. Faire une mitzvah dans la Torah, c'est relativement facile. Mais changer un comportement qui est ancré en toi, ça demande parfois plusieurs vies. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pour les mesures donc, pour les limites normales des choses, pour l'exactitude, pour la finesse des choses, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Et là, j'introduis mon sujet. Si je n'ai pas ces mesures, si je n'ai pas l'intelligence, le discernement, le cerveau gauche, discernement, en hébreu, bina. Si je n'ai pas la bina développée, je ne peux pas faire les différences entre les éléments. Or, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut être ensemble. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il fallait perdre son identité et sa personnalité. Je parle d'unité, mais non pas d'uniformité. Attention, l'uniformité, c'est une catastrophe. Donc, quand tu te relies à moi, tu vas garder ta spécificité. Je n'ai pas besoin que tu sois encore un comme moi, parce que s'il y a encore un comme moi, il y a un des deux qui doit dégager. C'est comme ça que ça marche. Donc, je ne dois jamais être l'imitation de quelqu'un. Je dois être moi. Et personne dans ce monde ne peut faire ce que moi, je peux faire. Donc s'il manque un moi comme moi, le monde perd un soldat. Et c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que la mort est considérée comme une profanation du dévoilement de Dieu. Parce que chaque être qui meurt, c'est un soldat en moins, avec une spécificité à lui. Donc Dieu ne se dévoile plus, entre guillemets, par ce canal-là qui vient de mourir. Et donc tout le monde est dans une panique totale. Ça s'appelle un chiloul Hashem. Et pour corriger la profanation, le chiloul en hébreu veut dire un vide. On a créé un vide, il y a un vide maintenant. Il va falloir remplir ce vide. Quel est l'inverse de chiloul Hashem? Kiddush Hashem. Kiddush, donc on va dire le Kaddish. Donc le Kaddish vient remplir un vide créé par la mort. Vous comprenez? Et comme la mort n'est pas du tout, mais pas du tout, dans le naturel des choses, comme la plupart des gens pensent, à tel point que le prophète nous dit que c'est un scandale, et qu'elle arrivera à disparaître un jour du monde, ou Macha Adonai Elohim Dim'a Me'al Kol Panim Ve'Cherpat Amo Yassir. Cherpa, en hébreu, la honte. La mort est une honte dans la bouche de Dieu. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il existe une force aussi forte que la mort, c'est qu'elle est plus forte que la vie. Or Dieu, c'est le Dieu de la vie. Donc il y a une force dans ce monde qui est plus forte que lui. Donc le judaïsme, c'est l'anti-mort. Et c'est pour ça qu'on dit à toutes les prières, encore une fois, on n'entend pas parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a vécu en français, parce qu'on réfléchit en français, parce qu'on rêve en français, pas moi. Mais c'est un problème. Sans arrêt, tu dis Mechaya Metim, sans arrêt, tu pries pour la résurrection des morts, Melech Elohim Chaim, Loham Metim Yehalleluya. Vous ne pouvez pas louer Dieu en tant que mort.
Est-ce que le fait de mourir, ce n'est pas aussi une forme de mesure?
À partir d'une faute. À partir du moment où il y a eu faute du premier homme, Dieu s'adapte à la nouvelle structure de ce monde. Faiblesse, donc je suis avec vous. Vas-y, continue. T'as failli, je m'adapte. Alors maintenant, il va falloir que tu passes par cette station qui s'appelle la mort. Mais en réalité, moi, je ne t'ai pas demandé de mourir. Je t'ai dit justement de ne pas consommer de telle et telle manière ce fruit interdit pour ne pas mourir. Mais tu ne m'as pas écouté. Parce que tu écoutes ton cerveau reptilien, le serpent. C'est ça le serpent. Ce n'est pas un serpent qui se baladait au jardin d'Éden, vous comprenez bien. C'est votre logique qui toujours, malheureusement, bat, gagne le désir de l'infini. On se dit toujours qu'on est plus malin que lui. Ça a toujours commencé, c'est toujours comme ça. Premier homme, c'est ça la faute. Ne croyez pas que c'était un serpent qui se baladait, qui machin. Mettre la Torah à ce niveau, c'est une horreur, une horreur. Si vous imaginez Adam et Ève avec des feuilles de vigne et des machins en train de se balader nus dans un jardin, il faut arrêter tout de suite. Il faut prendre les médicaments qu'est nécessaire pour arrêter. Maintenant, pardon. Justement, à cause de ça. À cause de ce manque de vie, de comprendre qu'en réalité, Caïn et Hevel font partie d'un même personnage. Je vous l'ai déjà dit une fois, à Hanouka. Caïn vient du mot de Kané. Kané, c'est la vie. Kenyon. Tu es là, tu fais tes achats, machin, t'es la vie, tu es là, tu t'habilles, machin. Hevel, c'est le souffle, l'esprit. Caïn et Hevel, c'est l'esprit et le corps. Caïn a tué Hevel, le corps a tué l'esprit, parce que l'esprit voulait tuer le corps. Ça ne marche pas, les deux c'est ensemble. C'est la Chanoukia. Tu as les Kanim, Caïn, les branches, et Hevel, les lumières. Et c'est ça le tikkun. Je reviens, sinon vous allez croire que je suis à Hanouka. Les mesures dans le cours que je voulais vous faire passer, c'est tout simplement construire réellement une structure à partir du moment où tout a été dévoyé. Vous rappelez à la création du monde, il y a un verset qui dit que Dieu a « Vayavdel Elohim » Ben Hamaim Asher Mitachat Larakia ou Ben Hamaim Asher Mea Larakia. Et Dieu a. Aïe, aïe, aïe. Vous recommencez. C'est terrible. Dieu n'a jamais séparé. Yavdel. Il a différencié. Regardez, regardez comment vous êtes formaté. Ça veut dire que pour vous, d'après cette logique, la Havdallah du Motzaï Shabbat est une séparation entre Shabbat et le Chol. Vous êtes mort. C'est une différenciation. Il faut faire très attention, Rabotai. C'est autre chose. Séparer, c'est mourir. Différencier, c'est vivre. Parce que je connais ma place, mais je connais aussi celle de mon voisin. Je sais qu'on est différent, mais on n'est pas séparé. La Neshama et le corps, Hevel et Caïn, dont je viens de vous parler, ils étaient différents, mais pas séparés. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Torah, dans la création du monde, le mot séparé? Ça n'existe pas. Vayavdel, 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 vayavdel. Vous voyez? Si c'est que pour ça, t'as bien fait de venir.
Alors pourquoi ce jour-là, on n'a pas mis Kitor?
Quel jour?
Du jour où on parle de vayavdel entre les autres.
Léa, je vais t'expliquer. Cette différenciation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu qui connaît l'histoire sait qu'un jour les gens vont casser le système et donc vont abandonner les différences. Et si les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne sont plus différenciées, ils se rassemblent et ça fait le déluge. Ça veut dire que le déluge, c'est tout simplement le fait d'avoir brisé la structure équilibrée qui tenait le monde. Dans le livre de Iov, celui qui a trouvé un Job, il est écrit « Tole Eretz al Blima ». La terre tient, l'univers tient sur des freins. Bolem, Balam. Si tu sais freiner, si tu sais garder ta place par rapport à la mienne, s'il y a un espace entre les deux, comme l'espace blanc entre deux lettres dans la Torah, c'est magnifique. Mais si tu mélanges, il n'y a plus de bolem, tu inverses les termes, ça fait maboul. C'est aussi simple que ça. Rabotai, le maboul, c'est pas des seaux d'eau qui descendent du ciel. C'est l'homme qui a détérioré l'équilibre fragile dans lequel il était parce qu'il ne sait plus donner de frein à ce qu'il fait. Il est dans une convoitise, il est dans un abus de tout, il est dans un... La vérité. Tout ce qu'on a, c'est autant que dans un magasin, dans tous les domaines. On n'arrive plus à donner les limites à quoi que ce soit. Et ce monde, en réalité, nous demande un équilibre, une finesse, une intelligence. Et donc Dieu demande à Noé, toi, l'homme qui a envie de vivre dans un équilibre parfait, comment vous écrivez Noé en hébreu? Nounchet, il n'y a pas de vav. Quelle est la valeur numérique de Nounchet? 58. Vous connaissez une autre valeur 58 avec trois lettres? Ozen. La Kabbalah nous dit noir, c'est l'oreille. Pourquoi? Parce que dans l'oreille, il y a noir, il y a le sens de l'équilibre. En hébreu, izun. Donc il y a une balance. Tu sais équilibrer les choses. Donc noir ne porte pas un nom anodin. C'est pas que son père, il s'est dit, tiens, on va l'appeler noir, il a l'air d'un noir. Non. Tu vas venir pour corriger le monde. Zeyenachamen, ou le père qui est prophète, dit, au moment de la naissance de noir, toi, tu vas venir rééquilibrer toute cette panique. Ce monde est foutu. Les gens n'ont plus de limites. Il n'y a même plus de lien normal. Les hommes allaient avec les animaux, les femmes avec les animaux. C'était une perversion totale de l'univers, Rabotai. Qui shrit kol basar et darko alares. On ne les appelait même plus des hommes et des femmes, on les appelait des morceaux de viande. Basar. Et tout ça, tu ne le vois pas. Parce que tu lis, tu as l'impression, c'est l'histoire. Mais non, la Torah, ce n'est pas une histoire. La Torah, c'est tout simplement un comportement humain par rapport à une situation. Et un se comporte de telle manière, et l'autre se comporte de telle manière. Et moi, l'étudiant de la Torah, je dois comprendre tous les comportements de tous les acteurs par rapport à la même situation. C'est ça l'intelligence de la Torah. C'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Noé, à Noé, je te demande de retrouver le centre de l'équilibre. Quelle est la forme la plus équilibrée de notre monde au niveau géométrique? Le triangle. Ok? Le triangle, c'est connu. Eh bien, l'arche était triangulaire. Elle avait trois étages. Trois niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle avait trois niveaux? Eh bien, elle respectait tous les niveaux. Elle était bâtie sur les trois niveaux de l'arche, de l'être, du monde. Il y avait le monde humain à l'étage supérieur, le monde animal à l'étage du milieu, et tout le reste à l'étage d'en bas. Et tout le monde se respectait mutuellement. Ça veut dire que l'arche de Noé était en réalité un retour au jardin d'Éden. Et en réalité, une projection messianique. Car qu'est-ce qu'il est écrit? Vous connaissez tous ces versets. Que le loup sera assis à côté de l'agneau. Eh bien, c'est dans l'arche de Noé, c'est pareil. Le loup et l'agneau étaient tranquilles. Ils ne se mordaient pas, ils ne se mangeaient pas. À Jérusalem, on a trouvé une combine. On a mis un loup dans la cage de l'agneau, dans le zoo de Jérusalem, et ça marche. Tous les soirs, on change l'agneau. Là-bas, ça marchait, vraiment. Ça marchait. Et étant donné que ça marchait, ça veut dire qu'on était dans un monde messianique. Je vous cite le verset du prophète, le tigre avec une brebis. Venar est un petit enfant qui fait le berger noir. Extraordinaire. Ça veut dire que on a demandé à l'humanité de revenir à zéro. d'éteindre l'ancien monde pour permettre un nouveau monde. La mesure de l'arche, 300 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de haut. 350, 30, 380. Valeur numérique, shalom. La Teva, c'est un centre de shalom. Pas dans le sens shalom, dans le sens de shalem. C'est une entité retrouvée. C'est un équilibre retrouvé. Ce sont des mesures que Dieu donne à l'homme, pas que l'homme invente.
C'est combien de temps après la création ?
1650 ans. D'accord ? Oui. Pardon ? Oui. D'accord. Ish ve isha, yafé meod. Ça j'aime. Tout simplement parce que ceux qui étaient dehors étaient pervertis. Mais ceux qui sont rentrés dans l'arche sont restés intègres.
Donc il y avait un choix.
C'est pas qu'il y avait un choix. C'est qu'il y avait un choix divin. Mais Noir n'est pas allé les chercher. Ils ont été aimantés par le centre de l'équilibre qui a été formé par lui. Le Zohar nous dit que c'est la terre d'Israël. À la fin des temps, dit le Zohar, il y aura un déluge d'informations, de données, et seront sélectionnés des êtres qui vont être aimantés par la terre comme ceux qui ont été aimantés par l'arche. Donc vous croyez que vous avez fait votre alia. Il n'y a aucune intelligence là-dedans. Au contraire, si vous étiez intelligent, jamais vous serez là. C'est parce que vous avez, à un moment donné, mis de côté votre cerveau reptilien qu'on appelle le roi des comptes. Melech Cheshbon. Vous vous rappelez, je vous ai déjà fait un cours sur ça. La première guerre, quand on rentre en Eretz Israël, dans la Torah, hein, c'est contre un roi qui s'appelle le roi des comptes, Melech Cheshbon. Tu viens et tu commences. Alors, chérie, regarde, si on fait comme ça, machin, je monte pas. Ça marche pas ici, il n'y a rien qui marche, c'est pas possible, machin. Je préfère aller là-bas, c'est tranquille. Vas-y là-bas, c'est très bien, mais tu es en dehors de l'arche. L'arche de Noir, c'est Eretz Israël, Rabotai. Et le Zohar va nous dire, l'arche de Noir, c'est le Shabbat. Et comme la terre d'Israël s'appelle aussi Shabbat au niveau de l'espace et du temps, c'est la même chose. Et Noir, c'est le Shabbat au niveau de l'être. Ça veut dire qu'il y a ici une rencontre entre trois Shabbatot, entre tous les degrés de l'entité, de l'entièreté. Mais le cerveau humain, lui, ne voit pas ce que je suis en train de vous dire. Il faut s'abandonner à un cerveau qui est beaucoup plus infini. Pas plus, infini. Et si tu ne fais pas confiance à cette volonté divine, eh bien tes conclusions humaines, logiques, cartésiennes, vont te pousser à faire n'importe quoi, les plus grandes bêtises de ta vie. Et tu risques même de sortir de l'arche pendant que le Maboul est en train d'arriver. Rabotai, ça c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah un zivoug entre Zahar et Nekeva. Entre le mâle et la femelle. Parce que, pour l'instant, nous sommes dans la lettre Vav ici, vous êtes d'accord ? Eh bien, cette lettre Vav, elle doit rentrer dans la lettre Ré. C'est Noach qui rentre dans la Teva. C'est l'homme qui vient rentrer sur la terre. C'est l'homme qui rentre dans le Shabbat. Quelle est la valeur numérique de ce Vav ? 6. 6 ou des multiples. Noach avait 600 ans quand il est rentré dans l'arche. Ça veut dire que c'est le vendredi qui est rentré dans le Shabbat. Ça veut dire que nous sommes dans le vendredi du temps, dans le sixième millénaire aujourd'hui, et nous sommes en train de rentrer dans le Shabbat du temps et de l'espace. Et sur la terre d'Israël et au niveau du temps. Donc on n'a plus rien à faire à l'extérieur. Tout va se passer ici. contre toute attente, contre toute logique. Moralité, il y a ici un mariage attendu. Il faut arriver à temps. Je suis tellement désolé que tous les mariages commencent en retard. C'est terrible. On te dit de venir à 6h30 précise, ça commence à 9h30 pas précise. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? Vous savez le vol que ça représente au niveau du temps des gens que vous devriez rembourser? Des gens qui étudient, des gens qui font des choses, des plein de choses que vous avez décidées juste pour votre petite fête, sans rien respecter. C'est assourd, rabotaille. C'est assourd. Quand vous fixez un temps, respectez-le. Quand il y a un cours qui commence à 8h, c'est 8h. Au Machon Meir, je ferme la porte. À midi précise, jusqu'à 1h précise. Même après, je ne veux pas voler le temps. Ça aussi, ça fait partie des mesures, Rabotai. Tu peux être démesuré dans tout. Et en réalité, tout cet accouplement entre Noach et son arche, c'est notre vie entière. Vous savez combien de temps ça lui a pris pour la construire? 120 ans. C'est bizarre, non? Admea Vesrine. On se souhaite tous Admea Vesrine, Dani. Pourquoi on dit Admea Vesrine? Parce que tu as 120 ans pour construire ton arche. Parce que nous avons tous 120 ans de vie pour construire cette arche. Pour s'y installer Noach. Pour retrouver la grâce. Venoach Matsa Chen. Regardez bien la Torah, l'intelligence de la sémantique. Noir a trouvé Chen. C'est les mêmes lettres à l'envers. C'est-à-dire, il s'est regardé dans le miroir, il s'est retrouvé. Extraordinaire, ça c'est ce qu'on appelle un sadique. C'est-à-dire que j'ai trouvé en réalité moi-même. Seulement quand je me regarde dans le miroir, c'est les lettres à l'envers. Très bizarre parce qu'en hébreu, Chen... C'est Chochmat Hanistar. C'est la sagesse des secrets. C'est pas la beauté, c'est la grâce. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que la beauté plastique. Il y a Sheker et Yofi et Chen. Donc en réalité, Noach est rentré dans un univers d'équilibre. Et cet univers d'équilibre, on doit le retrouver nous. Là, je représente le côté masculin, désolé les mecs, et tous ceux qui écoutent le cours maintenant, ce sont comme des féminins. C'est comme ça. Après, ça change. Je vais écouter mon rave, lui devient le masculin, moi je deviens féminin. Je suis fécondé par son cours. D'ailleurs, le mot élève veut dire fécondé. Talmid, c'est les mêmes lettres que l'allégé. Et accouché. C'est-à-dire, l'élève fait accoucher du maître. C'est incroyable. Il n'y a rien qui est au hasard, c'est une langue divine, Rabotai. Étudier la Torah, c'est vous étudier à vous. C'est pas venir étudier un texte du Radé Pâquerette, une histoire, ouais, il nous a dit que machin, et alors le bon Dieu était énervé. C'est dommage de rabaisser la Torah à ce niveau. C'est tellement fort. Et Akadosh Baruch Hu ne s'est pas trompé. À la création du monde, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Vayar Elohim et kol asher asa v'hine tov me'od. C'est la conclusion de la création du monde. Et là on arrive à Noach. Combien de versets après la création du monde? Exactement, mais exactement. 101 versets. 101 versets après le tov me'od. Je vous cite maintenant le nouveau verset après 101. Vayar Adonai ki rabarat ha'adam ba'aretz. L'homme a tout massacré sur terre. Ve kol yetzer machshevotav rak ra kol hayom. Il y a une seule chose dans sa tête, c'est le mal. Qu'est-ce que c'est le mal? Ra. C'est pas qu'il a envie de faire du mal. Ratson atmi. C'est l'égoïsme, c'est tout. J'en ai rien à faire. Quand je te serre la main, je pense à une seule chose, qu'est-ce que je vais gagner ? Chas bechalila. C'est comme ça, c'est ça en réalité. C'est pas que les hommes étaient méchants, c'est qu'ils ne pensaient qu'à eux. Il n'y a rien qui compte. Tu ne fais même pas attention à une délicatesse de l'autre. Il n'existe même pas pour toi. Il n'y a que pour toi, que pour ta figure, pour ne pas dire autre chose. Rabotai, ça, c'est la catastrophe la plus grande. Et c'est en réalité la dégradation dont j'ai parlé au début de mon cours. Parce que quand tu es dans cette situation, tu ne peux pas prendre conscience de l'univers tout entier et que toi, tu es un élément parmi tant d'autres. Parce que c'est toi le centre. Chas v'shalom. Étant donné que l'équilibre du monde a été déporté, okay, déséquilibré, depuis Tov Meod, sans verser plus tard, sans inverser, rakra kolayom. Qu'est-ce que vous voulez faire? Akadosh Baruch Hu, lui, ne s'est pas trompé. C'est pas qu'il a créé un monde qui s'est détérioré, non. Le choix de l'homme. Il a mis en place une structure humaine. Il aura dit, voilà, je vous donne tout. Est-ce que Dieu regrette en se disant, j'ai dit trop tôt et trop vite que c'était Tov Meod? J'aurais dit un petit peu, Chas v'shalom, on ne peut pas prêter ce genre de réflexion à l'infini. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en réalité, le changement et la détérioration n'est que par rapport à ceux qui reçoivent, ceux qui perçoivent. D'ailleurs, comme toute chose, vous mettez deux êtres face à la même situation, un va dire quel bonheur, et l'autre va dire mais quelle pourriture. La même chose. Il y a des gens qui ne voient que l'extériorité des choses. Donc leur conclusion c'est de se sauver. Mais quand tu regardes l'intériorité des choses, tu vois les choses différemment. Mais ça fait dur, c'est mal, c'est un travail. Pas évident. Et le pire de tout, c'est la dépression. Parce que quand tu n'y crois plus, t'es mort. Faire très attention à redécouvrir tout ce que nous avons avec un œil neuf à chaque instant. Comme si c'était la première fois. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la lumière divine exige des ustensiles très solides. Donc on doit travailler nos midot toute la journée, toute la journée, toute la journée, travailler nos mesures. Alors que le verset nous dit Vatishachet ha'aretz lifnei ha'elohim ki mal'a ha'aretz chamas. La terre était remplie de chamas. Ces enfoirés, ils ont été choisir un nom qui est la plus pourriture qui existe dans ce monde. C'est incroyable quand même. Hein?
Qui c'est qui l'a fait, Michel? Je pose la question. Qui c'est qui l'a
fait? Eux-mêmes. Ça s'appelle chamas. Dans la Torah, c'est... Il n'y a pas plus grave que ça. Pourquoi l'ifnei Elohim? Là aussi, il y a une sémantique. Parce que même au niveau de Elohim, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit Elohim, c'était les lois de la nature. Même face à Elohim, face aux lois de la nature, face à nos rapports humains, il n'y avait plus rien. Il n'y avait aucun équilibre entre les êtres, aucun amour, aucun partage, aucun don, aucun souci de l'autre. Et ça, c'est en réalité le degré de la destruction totale. Rashi nous dit, ils ont fauté dans toutes les fautes. Il ramène la Gemara. Aval lo nechtam dinam ela al ha-gezel. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à faire du gezel. Vous savez ce que c'est le gezel? Gezel, c'est que tu es devant un magasin d'olives au chouk. Il y a 200 personnes qui viennent et chacun prend une olive. Moi, j'en ai pris une, ça. Ou alors, tu passes dans un jardin, un gazon, et tu vois qu'il y a un chemin, et tu passes dedans. et quelqu'un t'arrête, tu dis pourquoi tu passes ici, tu vois pas que c'est massacré, tu dis mais regarde, il y a un chemin. Il dit ouais, parce que ça fait 2 millions de personnes qui ont fait la même chose que toi. C'est devenu un chemin. Une gmara, ça, c'est de la gmara. Tu jettes des papiers sur la rue, tes chewing-gums, tu les colles partout, tu jettes. Mais qui tu es? Un respect sur cette terre, à cette terre, par rapport à cette terre? Comment tu veux que cette terre te le rende? C'est exactement comme un être humain. Imaginez-vous que à chaque fois que j'ai un Kleenex ou un papier, je le jette à la figure. Les gens ne se rendent pas compte. C'est une terre, c'est inerte. Non, elle est vivante, cette terre à Botaille. Et si tu lui fais une grimace, elle va te pourrir la vie. Et si tu parles mal d'elle, tu es mort. Par contre, si tu lui fais un sourire, 1656 ans, exactement, l'année du déluge. Le monde doit passer une phase. Pourquoi? Dans la Kabbalah, ça s'appelle un hibour. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le monde a été créé comme un accouchement. Eh bien, le monde doit redevenir comme dans un ventre nouveau. Maintenant, c'est la Teva. Ça va être le ventre nouveau du nouveau monde. Et tout le futur monde se trouve dans la Teva. Donc, dans la Teva, nous avons un extrait de tout ce que nous avons besoin pour un nouveau monde. Et dans notre histoire, ça se passe plusieurs fois. D'ailleurs, les gens de ce déluge savaient que tous les 1656 ans, ça se passe. Tous les 1556 ans, il y a quelque chose qui descend du ciel. Seulement, eux pensaient que c'était une catastrophe. En réalité, vous savez ce que c'était? Ce qui était prévu? L'eau. L'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. En 1956 de la création du monde, Dieu voulait donner la Torah. Ça, vous ne l'étudierez nulle part. La Torah a été donnée en combien de temps? 40 jours. Ah, ça commence à travailler. Le déluge, ça a duré 40 jours. Pour que la Torah descende sur terre, qu'est-ce qu'il est écrit? Que toutes les cheminées du ciel se sont ouvertes, exactement comme c'est marqué dans la paracha de Noach. Toutes les cheminées du ciel se sont ouvertes parce que l'infini est en train de descendre. Extraordinaire. Vous connaissez Moshe Bateva? Non? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Moshe Bateva. Moshe, il est toujours dans sa boîte. On l'a mis dans une boîte, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Moshe était là, en potentiel, attendant. Quand je dis en potentiel, c'est dans quel élément? L'eau. Le liquide, c'est un potentiel. C'est comme la goutte de semence. Donc Moshe attendait. D'ailleurs, c'est incroyable. La Gemara pose la question, où est-ce qu'on trouve Moshe dans la Torah? Tiens, ça me fait bien rire, ça. Où est-ce qu'on ne trouve pas? Il est partout. Ben non. La Gemara va répondre dans Houlin, Moshe, dans la Torah, on le voit à un seul endroit. Bizarre quand même. Dans la paracha où il n'apparaît pas. Dans la paracha de Noach. Beshagam hu basar. Les Chachamim vont faire un truc, ils vont trouver que Beshagam, c'est en valeur numérique 358, exactement la valeur numérique de Moshe. Rien que là-bas, t'es parti le chercher? C'est que les sages veulent nous donner un enseignement. C'est que Moshe était prévu d'être là-bas aussi le donneur de la Torah. Seulement, comme la génération n'était pas encore prête, eh bien, cette lumière de Torah qui est descendue, la même Torah est devenue pour eux, récepteurs mauvais, un déluge. La Torah peut devenir une destruction pour l'homme. Bien sûr, c'est marqué dans Pirkei Avot. Un homme, une femme qui s'est nettoyé dans sa vie, la Torah devient pour lui un élixir de vie. Un homme qui n'a pas fait ce travail dans sa vie et qui va étudier la Torah alors que ses vertus sont mauvaises, c'est un égoïste. Eh bien, cette même Torah devient pour lui un poison. Waouh ! Ben oui. Tu reçois une lumière tellement grande, avec des ustensiles qui sont tellement pas correspondants, Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Tu vas exploser. C'est tout. Derech Eretz Kadma la Torah. Pour étudier la Torah, il faut que tu aies d'abord une morale de vie, que tu sois un homme, que tu sois un être, que tu sois bon, que tu aies des bonnes vertus, que tu aies des bonnes mesures, que tu veuilles vivre avec en donnant, comme à Kadosh Baruch Hu, tu dois être comme lui en petit, dans ta petite mesure d'homme, de femme. Lui est donneur, c'est le bon Dieu. Et toi aussi, tu dois être un bon homme, une bonne femme. Rabotai, tout ce que je suis en train de vous dire, ça, vous ne pouvez pas imaginer le, comment on dit, l'ouliane en français. Je fais des cabrioles pour vous raccourcir parce que c'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement énorme. Je sais pas. Moi, je pleure. Quand je découvre ces choses, je pleure. Je me dis, à Kadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Comment tu nous aimes autant de nous avoir donné tous ces secrets? Qui nous sommes? Tu nous as donné les clés de la vie. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout était là pour que l'infini nous donne sa vision du monde. Les véritables lois de la nature telles que nous devions les vivre. Et nous, avec nos petits mondes, on préfère s'éloigner. Mieux encore, on va faire une tour. Vous savez à quoi elle servait, cette tour? À retenir le ciel. Vous croyez que c'était des débiles, les gens? Ils se sont dit, it's not today que le ciel nous tombera sur la tête. Voilà. Ça veut dire quoi? En termes simples, Akadosh Baruch Hu, fais-nous plaisir, reste là où tu es et laisse-nous nous débrouiller dans ce monde. Chacun sa place, tu as créé le monde, Toda Rabba, reste là-bas. J'ai pas envie de vivre selon tes mesures à toi, tes critères à toi, ta Torah à toi. J'en ai marre, j'ai envie de faire ce que je veux. Bali. C'est terrible. Terrible. Ce monde exige, comme chaque élément. Alors au niveau du corps, là, vous êtes tous champions du monde. Hein. Je mange pas ça, je fais pas ci, j'avais têtu, le machin, le vaccin, le truc. Par contre, au niveau du vécu, c'est pareil, Rabotai. Il y a des lois dans ce monde. Elles ont été mises en place par le Créateur. Il sait exactement ce qu'il nous faut, ce qu'il ne nous faut pas. Et ça, on n'arrive pas à comprendre. Encore une fois, le serpent, toujours le même, vient nous embrouiller. C'est pour ça qu'il marche comme ça. C'est l'inverse d'Israël qui est la droiture, Yasha, elle. C'est ça le serpent. Rabotai, je ne vais pas trop m'étaler, alors que il y a tellement à dire. Mais il y a un message qui doit passer. La Torah, la lumière, Torah veut dire lumière. Oraita, or. La Torah sans les mesures de l'homme, sans être un homme et une femme, sans être des êtres normaux, qui ne font pas du mal aux animaux, qui n'arrachent pas des plantes, qui ne pourrissent pas la terre, des hommes normaux. Eh bien, la Torah ne rentre pas. Vous pouvez étudier toute la journée, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas des hommes et des femmes, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est une grande lumière qui rentre dans un ustensile négatif et qui va le faire exploser. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah « sechel blimidot ». Tu as un sechel, mais tu n'as pas de mesure des choses. Tu as perturbé l'ordre cosmique. Le Rav Kook, Alav HaShalom, marchait avec un ami à lui. Et cet ami a cueilli une feuille d'un arbre. Et le Rav Kook s'est évanoui. Il fallait le réanimer. On l'a ramené vers à lui. Et il a dit, pourquoi tu as déséquilibré l'univers? C'est pour ça que je me suis évanoui. Tout l'univers était déséquilibré parce que tu as arraché une feuille gratuitement. On ne fait pas attention à tout ça. On est devenu grossier. Le monde exige une délicatesse. Alors Moshe ne s'est pas dévoilé à cette époque. Donc il est resté dans l'élément. Oh, jusqu'à ce que la fille de Pharaon, Bithia, vienne le chercher dans l'eau. C'est-à-dire, il est resté là-bas dans l'eau en attendant qu'on vienne le chercher, que l'eau devienne une réalité. Parce qu'il y a trois phases. Il y a la pensée, il y a le liquide et il y a le bébé. Toujours comme ça. Ce qu'on appelle Baruch She'amar Vehaya Haolam. Amar, Amar. Aleph, Mem, Resh. Aleph, c'est la lumière, la pensée. Or, Mem, c'est Maim, l'élément liquide, la goutte de semence. Resh, Rakia, le bébé qui se forme. Toujours comme ça. La pensée, l'élément liquide et la formation. Eh bien, c'est la même chose au niveau de Moshe. Moshe est resté dans son potentiel liquide en attendant que quelqu'un vienne le chercher 712 ans plus tard. Il attendait dans l'eau. Sympathique. Et quand Bithia est venu le chercher, Bithia, la fille de Ya, Bathia, j'ai dit, ça y est, le temps est arrivé. Tous ces noms, tous ces codes, il faut un décodage. Vous l'avez acheté, Rabotai, il y a un décodage. Sinon, toute la Torah, c'est comme... C'est tout. Alors, tu peux faire comme ça, comme un malade mental, en train de regarder, peut-être tu vois un petit film. Il faut acheter un décodeur. Ça ne veut pas dire tomber dans le sérieux, dans l'angoisse, hein? Le décodeur exige un déconneur. Il faut rester dans la simcha. Le sérieux, c'est la simcha dans le judaïsme. Si tu crois que être sérieux, c'est faire la gueule, t'as rien compris, rien. Parce que tu te prends au sérieux. Alors qu'on est tous au Ganon, Gan Prachim, pour essayer d'étudier un tout petit peu ces valeurs de l'infini. Mais vous vous rendez compte, quel cadeau. Moi, chaque fois que je rentre dans la voiture, là, après mon cours, je dis à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas pourquoi tu m'as donné la possibilité de venir d'enseigner, machin, ta grandeur, ton immensité. Excuse-moi si je me trompe, excuse-moi, mais j'essaye de faire comme un petit bébé qui essaye de... Alors, je me prends l'exemple d'un petit bébé, d'un petit-fils, de mon petit-fils qui vient, qui me dit, papi, otse guida. Même s'il ne dit pas glida, je l'adore. Et mais c'est la même chose, je me dis, à Kadosh Baruch Hu, il me dit la même chose, mon Yoel. Tu fais n'importe quoi, à côté, presque. Mais j'aime. C'est ça le lien. Donc, Be'ezrat Hashem, tout ce passage à zéro, c'est le passage qu'on a vécu maintenant pendant ces deux années qui viennent de s'écouler. On est en train maintenant, bientôt, de sortir de l'arche. Tout ce confinement s'est rentré dans l'arche de Noé. Pourquoi ? Parce que le monde est en train de se préparer à une nouvelle étape. L'étape messianique, directe, dernière ligne droite, qui demande, et je vous le dis, de redevenir des gens bien. Faites attention. Tout simplement, des gens bien. Avant de commencer, machin, des secrets, des trucs, des gématriades. Sois quelqu'un de bien. Arrête d'en vouloir au monde entier. Arrête d'avoir la haine, tu ne sais même pas pourquoi. J'étais à un enterrement, la famille elle me dit, j'y vais pas, je ne sais même plus pourquoi on s'est battu il y a quelques années. Je ne sais même plus pourquoi on s'est battu. Mais je sais qu'il ne faut pas aller. Elle est. À chaque fois que la Torah commence par elle est, et non pas avec le va ve elle est, pas ça les tarishonim, dit le Midrash. C'est comme si on avait annulé le monde d'avant. Donc en réalité, Rabotai, nous avons passé un switch et nous sommes en train de ressortir vers un nouveau monde. Alors attachez vos ceintures. Nous sommes dans la dernière, ultime étape messianique, puisque nous rentrons maintenant véritablement au niveau des horaires dans le Shabbat du monde. Ce que nous devons faire, c'est relier les liens, c'est tout. commencer à nous aimer les uns des autres, vraiment, parce que nous sommes un. Même si extérieurement on est différent, nous avons une seule neshama collective, on est des cellules dans un grand tout. Aimez votre terre, aimez votre peuple, aimez la Torah. Et Bezrat Hashem, aimez-vous vous-même et arrêtez de vous en vouloir pour rien. On est les plus grands ennemis de nous-mêmes. On s'en veut sans arrêt, on ne se pardonne pas des choses. Et les grands sages d'Israël nous disent, si toi tu n'es pas capable de te pardonner, Dieu ne te pardonnera pas. Donc vois l'optimisme. Il y a demain, il y a un lendemain qui chante. Il y a Bezrat Hashem, une belle forme d'avenir. Il y a des messages de nos sages, de nos prophètes. Demain, il fera beau. Alors on passe des moments difficiles, mais Bezrat Hashem, quand on est ensemble, on a moins peur. Alors Bezrat Hashem, soyons de plus en plus dans cet amour et nous allons traverser tout cette séara. Quelle injustice. Alors, moi je ne fais pas partie de ceux qui considèrent Noir seulement un tzaddik à sa génération, par rapport aux autres, il n'est rien. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur Noir, parce que ça n'a jamais été fait. Et si la Torah prend le soin de me dire qu'il a été tzaddik, pas par hasard. Donc je considère que c'est un tzaddik. C'est sûr que même le tzaddik chute. Sheva, Ipol, tzaddik, veka. Donc quand il sort de la Teva, étant donné que c'est un nouveau monde, pardon? La Teva, elle était Mashlima Oto, mais après il est sorti de la Teva. Le but, ce n'est pas de rester dans l'arche, c'est de ressortir pour reconstruire le monde. Là aussi, ça commence les chutes, mais ce n'est pas grave, c'est dans un autre étage. J'ai dit à la synagogue ce Shabbat, quand vous sortez de Shabbat, vous sentez un vide. Ce n'est pas parce que le Shabbat était grand et maintenant vous êtes dans la semaine qui est bidon. Pas du tout. Parce que quand vous êtes sorti du Shabbat, vous allez en hauteur. Motsaï Shabbat est plus haut que Shabbat, parce que vous êtes déjà dans le Shabbat prochain. Et comme vous ne connaissez pas les élèves de la nouvelle classe, alors vous vous sentez seul, vous avez l'impression que vous êtes sorti de la grande lumière. Mais c'est faux. Le monde va toujours dans un sens ascendant. Et nous allons vers la grande lumière, qui va être visible, Bekarov, Bimhera Biamen ou Amen. Toda Rabba. Okay. Il y a deux annonces. D'abord, ceux qui sont intéressés, ben,